Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 247e épisode le 19 octobre 2021. Alors hier, Apple a présenté des nouvelles versions de MacBook Pro. Vous étiez nombreuses et nombreux à les attendre. Et peut-être que les vraies stars n'étaient pas forcément les MacBook Pro, mais les puces, les M1 Pro et les M1 Max. On va regarder ensemble ce qu'il y a de nouveau dans cette présentation. Et puis, dans une autre rubrique, le prix Nobel de la paix a été attribué à une journaliste, Maria Ressa, qui ne mâche pas ses mots à l'égard de Facebook et qui va nous permettre de reparler encore, on n'est jamais déçu, hein, de Facebook. On dessinera aussi une nouvelle facette qu'on n'avait pas vue venir dans les usages proposés justement par Facebook pour l'avenir, notamment se passer des AirTags et lutter contre les trous de mémoire. Comme ça, sur le papier, ça fait rêver. On a aussi d'autres trucs comme la modification de ce qu'on voit en temps réel. C'est des sujets qu'on va essayer de vous rendre compréhensibles dans un podcast audio, alors que c'est très visuel, c'est notre projet. Et puis on aura aussi plein d'autres sujets, parmi lesquels un de mes chouchous, la crise d'idiotie de véhicules Waymo. Ça fait toujours plaisir. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve avec délectation celui qui est aussi en avance sur l'actu tech que les catalogues de jouets de Noël, aussi insaisissables qu'une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume.
Voilà, et j'espère au moins aussi ludique, hein, parce que qu'une PlayStation clairement aussi ou qu'un magazine de jouets qu'on regarde comme ça en rêvant, les yeux plein d'étoiles.
Oui, dans les deux cas, on est dans les magazines de jouets. On sent les influences du papa en ce moment et tes derniers temps avec ces deux garçons, je pense, qui ont reçu les catalogues de jouets. Je vous en reparlerai. Xavier Depé a déposé un avis sur Apple Podcast et il a dit que c'était même un podcast incontournable. Tech Café est un podcast qui résume toute l'actualité de la tech en une heure seulement. Oui, on tient à peu près nos objectifs en plus. La brochette de Guillaume est simplement magique. Entre les castors de Guillaume P et la Tesla de Guillaume V, on est servi. Alors, j'espère que vous avez plus de plaisir et d'informations avec les castors qu'avec ma voiture, mais bon. Et je recommande vivement, dit-il. Bah, merci beaucoup, Xavier. Et puis, on compte sur vos nouveaux avis, ceux que vous déposerez vous-même sur Apple Podcast et Podcast Addict. Profitez-en pour nous dire où et quand vous écoutez le podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis, si c'est pas déjà fait, je vous invite aussi à installer et tester l'application de podcast Tumult, T-U-M-U-L-T. Réagissez à un emplacement précis de l'épisode pour entamer le dialogue et puis on vous répondra. Merci enfin à Loïc, Adrien Ledonge, Cédric Duez. Ils accèdent au flux privé du podcast avec les mêmes épisodes que ce que vous écoutez en public, mais ils sont garantis pour eux sans pub. Ils bénéficient aussi d'un espace privilégié pour échanger avec nous. Ils s'assurent durablement de la pérennité de Tech Café. Et forcément, si vous voulez faire comme eux, c'est hyper simple. Ça prend littéralement une minute. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Avant d'aborder les news qui étaient prévues dans l'épisode préparé par Guillaume Pogjaspala, un petit mot d'abord avec le courrier des lecteurs, car Bruno Chanel, sur Patreon, nous a demandé de réagir à un article qu'il a vu passer et qu'il nous a partagé. On avait vu l'info sur d'autres sites, mais là, c'est un article de l'Usine Digitale. Le titre, Tesla lance une assurance auto qui s'ajuste en temps réel au comportement des conducteurs. On avait parlé dans les précédents épisodes du fait qu'il y avait un score de conduite qui était donné désormais par Tesla, alors aux États-Unis notamment, et qui permettait de se baser sur un certain nombre d'indicateurs pour vérifier si on était un conducteur qui était sérieux, qui conduisait sérieusement de manière peu dangereuse. Et Tesla, forcément, voudrait bien exploiter cette donnée pour nous proposer des assurances automobiles, mais au tarif indexé sur justement le risque qui est induit par notre conduite. Ils indiquent que les tarifs de leurs assurances seraient inférieurs de 20 à 40% à ceux des concurrents, voire 60% pour ceux qui détiennent les meilleures notes de sécurité. Alors forcément, ça fait sur le papier rêver de se dire waouh, je pourrais être reconnu en tant que très bon conducteur pour payer moins cher. Mais évidemment, ça pose d'autres questions, des questions qu'on a abordées déjà depuis longue date, je dirais, dans Tech Café. Les enjeux liés à la surveillance qui, bah oui, ok, d'un côté, les bons acteurs sont récompensés. De l'autre, vous pourriez être sacrément plombé si vous êtes un conducteur considéré comme un peu moins bon. Tout repose aussi sur la fiabilité des indicateurs qui sont récoltés par Tesla et les analyses. Mais surtout, cet aspect de surveillance, bah, pose forcément un petit peu question. Moi, j'ai l'impression que nécessairement la technologie va amener ce type de service, va aussi amener les assurances forcément à prendre en compte ces indicateurs pour indexer les tarifs qui sont imposés au quotidien, et pas forcément d'ailleurs que sur la conduite, même si c'est sur le plus évident. C'est quoi ton sentiment sur cette, je mets des gros guillemets, hein, sur cette innovation, Guillaume ?
Bah écoute, moi ça me fait beaucoup penser aux chauffeurs Amazon en vrai, hein. Puisque les chauffeurs Amazon sont, on y avait parlé, hein, sont monitorés en permanence par des algorithmes qui sont d'une fiabilité et d'une précision, voilà, d'une efficacité très très relative. Et du coup, leur vie était devenue un enfer, hein, puisque leur boulot c'est de conduire. Donc quand quelqu'un te sanctionne à tort ou à raison tout le temps et que t'es obligé malgré tout d'aller vite, c'est très compliqué. Alors effectivement, pourquoi ça me fait penser ? Parce que Amazon, évidemment, il dit, ben voilà, c'est pour augmenter la sécurité de tout le monde, en fait, hein, des chauffeurs, tout ça. Donc, ben voilà, on va surveiller les chauffeurs pour qu'ils soient prudents. Et évidemment, dans les faits, ce que ça fait, c'est que ben, c'est un enfer, ça, c'est parce que, ben, d'une part, c'est mal foutu, puis d'autre part, c'est permanent. Alors, le truc, c'est que Tesla, il a quelque chose de vraiment particulier, c'est qu'il construit les voitures et qu'il peut faire une télémétrie précise de plein de choses pour surveiller, en tout cas monitorer votre conduite en temps réel quasiment, hein. Ce que ne peuvent pas faire les autres conducteurs, ce que ne font pas la plupart des autres constructeurs, il me semble. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très particulier à Tesla. Donc c'est quand même quelque chose qui, voilà, à noter, quoi. Bah, du coup, effectivement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'auto-censurer, quoi. Donc, pour le meilleur, pour le pire, c'est pas si évident, en fait, hein, parce que il faut assumer que ta voiture te surveille tout le temps. Tout le temps. Et ça va dépendre de comment c'est fait. C'est-à-dire, globalement, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le surveillant, c'est vraiment, tu vois, est-ce que ça donne vraiment, ça tire vraiment des comportements imprudents, ou est-ce que ça te sanctionne pour tout et n'importe quoi? Est-ce que les algorithmes seront suffisamment, bon, quelque part, c'est encore une manière de te surveiller, quelque part, hein. C'est avec la carotte de tu perds moins si t'es prudent. Mais en vrai, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous allez avoir envie de ça? Et puis, comment ça va se passer au niveau de la concurrence? Parce que si t'es une compagnie d'assurance et que t'as pas accès à la télémétrie de la voiture parce que t'as strictement rien à voir avec le constructeur, comment tu fais, comment tu fais au niveau concurrentiel vis-à-vis de Tesla qui construit la voiture et qui donc peut avoir les infos qu'il veut dessus? C'est pas évident non plus, en fait, hein.
Ouais, ça pose une vraie question sur cet aspect-là que j'avais pas
envisagé. Comment se positionner en tant qu'assureur traditionnel? Parce que l'assurance, c'est une question de données. Je veux dire.
Bon, ça bouge pas tes propositions préalable. Enfin, je veux dire, les assurances qui aujourd'hui assurent les véhicules Tesla, à la limite, j'imagine qu'ils resteront sur les mêmes indicateurs. Et d'ailleurs, il y a un petit peu déjà aujourd'hui de.
Mais tu te rends compte que là, tu peux faire de l'actuariat en temps réel, en fait.
Tout à fait. C'est l'aspect temps réel qui change. Parce qu'aujourd'hui, les assurances indexent déjà les tarifs avec les bonus-malus sur la base de ton historique, de ce que tu déclares. J'ai d'ailleurs la précision dans ma phrase, c'est que c'est ce que tu déclares. Tu peux avoir plein de cartons avec ta voiture sans les déclarer à l'assurance parce que tu veux pas avoir de malus et tu préfères ne pas payer la franchise, tu préfères payer cash ta réparation. Et à la limite, c'est ta liberté de le cacher, ce qui ne permet plus effectivement une assurance qui te surveille tout le temps.
Il y a une très très grosse différence du volume de données disponible à Tesla en tant qu'assureur vis-à-vis des autres assureurs. C'est absolument sans comparaison, tu vois. Donc ça pose beaucoup de problèmes, ne serait-ce que, bah voilà, une compagnie d'assurance, comment tu te positionnes? Est-ce que c'est pas de la concurrence déloyale, quelque part? Parce que Tesla peut savoir, par exemple, si, de manière fiable, si quelqu'un est vraiment imprudent ou pas. Alors qu'une, comme tu le dis, une assurance standard a plus de mal à le savoir. Donc, c'est vraiment très compliqué. Bon, moi, j'ai pas de voiture. Donc, évidemment, je suis pas la meilleure personne pour parler de ce genre de sujet, très honnêtement. Mais, c'est un sujet qui est pas inintéressant du tout, parce que oui, c'est une forme de surveillance, comme d'habitude, hein, pour votre bien. Mais, bon, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et bah, moi, je ne sais pas si j'aurais envie de savoir que ma voiture me surveille en permanence, mais où ?
Ouais. Moi, je sais que t'aurais pas envie.
Mais t'as envie, toi ?
Je te connais trop bien. Alors, honnêtement, ça dépendrait vraiment de la différence de tarif, je pense. Tu vois, aujourd'hui, là, sur le papier, si tu me faisais une proposition, je serais probablement prêt à. Parce que je pense que je fais partie de ces gens qui ont des conduites.
Ces gens vénales.
Absolument, je suis particulièrement vénal, je veux faire des économies, les assurances auto sont trop chères et il est grand temps de... Non, je pense naïvement que sans autre indicateur effrayant, je serais prêt effectivement à prendre ce type d'assurance, si tant est que la différence de prix soit très importante. Mais t'as raison, toutes les questions que ça soulève sont importantes. Et je suis sûr que c'est pas la dernière fois qu'on aura à aborder ce sujet, peut-être pas que dans le domaine de l'automobile, donc on va garder cette position de côté et on continuera et on prolongera la discussion ensemble. Il y a un autre sujet qu'on va aborder avant de relayer nos news, c'est une actu à chaud, puisque au moment où on enregistre cet épisode, il y a quelques heures, on a eu la présentation qui était tant attendue, là encore pour beaucoup, des Pixel 6 et des Pixel 6 Pro, donc les nouveaux smartphones de Google. Vous le savez, les Pixel, c'est les smartphones sous Android conçus par Google, mais évidemment avec une version d'Android qui est très googlifiée et qui est très peu ouverte. Je suis du regard les positions de Pierre-Olivier Dibman, qui nous a souvent exprimé son sentiment à ce sujet-là. Donc des smartphones qui sont connus aussi pour leur excellente prestation photographique et donc avec des nouvelles versions. Et la principale... Bon, il y a des nouveautés, hein. Il y a voilà, des nouveaux écrans, etc. Il y a des nouveaux capteurs photo, des nouveaux objectifs. Mais surtout, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est les premiers smartphones de Google qui ont une puce maison. Donc, exit les Qualcomm, exit les puces MediaTek que vous avez l'habitude de connaître dans les smartphones Android. Mais bienvenue au processeur Tensor. Et là, on peut pas s'empêcher. Moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec la stratégie d'Apple de proposer ses propres processeurs dans ses appareils. Là, en tout cas, c'est ce que propose Google avec les Tensor. Est-ce que c'est pas aussi là un point marquant dans l'histoire des smartphones Android, Guillaume ?
Ouais, alors il y a quand même des grosses différences. J'ai pas regardé de manière ultra précise, en particulier les Tensor Core, parce que en fait le processeur du Pixel 6, c'est globalement donc un assemblage de cœurs qui sont des cœurs standards, puisque ce sont des cœurs Cortex, donc c'est des cœurs qui sont directement designés par ARM. Ce sont pas des cœurs qui sont designés par Google, quoi. Hein.
Okay.
Par contre, Google a demandé à Samsung de lui faire une puce selon ses propres trucs. Et puis après, il y a les cœurs qui sont là pour le deep learning, qui sont eux des cœurs vraiment, par contre, qui sont vraiment eux été designés par Google. Par contre, le gros du calcul standard, enfin en tout cas que vous allez utiliser au jour le jour, c'est fait par des cœurs qui sont des cœurs complètement standards. C'est des Cortex X1, des Cortex A76 et des Cortex A50, je sais plus d'ailleurs. À 55.
Si tu sais pas, je le saurais pas mieux que toi.
À 55. Mais même là, en fait, c'est quand même assez étonnant. Alors, effectivement, il y a une appelisation dans le sens où, Google fait donc demande des puces, fait de faire des puces, effectivement, qui sont customisées pour lui. Et il a fait des choix qui sont un petit peu étonnants, je trouve. Pour bien comprendre pourquoi c'est étonnant, finalement, s'il faut revenir aussi à comment sont architecturées les puces, les processeurs d'aujourd'hui. Parce que les processeurs, aujourd'hui, c'est comme des équipes de foot. C'est tout est question de tactique. Tu vois, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un 4-4-2 en losange, un 4-3-3, un 3-4-3, comment tu défends ?
Toi,
peut-être
en grand expert 3-5-2, de foot que tu es,
on sait pas. Bon, pour les processeurs, c'est pareil. C'est la tactique, c'est pas pareil. Et donc, les processeurs, au début, c'était simple. Hein. Franchement, c'était simple, c'était du un cœur. Il était un cœur. Après, t'en as eu deux. Plus tard, t'en as eu quatre, et puis basta. Bon, et puis après... Puis est advenu le temps des cœurs asymétriques. Donc, il y avait des gros cœurs et des petits cœurs. Et on a eu beaucoup des 4-4, 4 plus 4, c'est-à-dire 4 gros et 4 petits. Voire des fois des 2 plus 4, avec 2 gros et 4 petits. Donc, en gros, les gros sont en attaque et les petits sont en défense, en arrière-plan, quelque part. Et donc, maintenant, le temps est venu des cœurs gros, petits et moyens. Donc, en fait, les moyens sont les gros d'hier, parce que les gros d'aujourd'hui sont encore plus gros. Ils sont très, très gros. Du coup, en général, on fait plutôt du 1-3-4, à la limite du 1-4-4. Donc ça veut dire du très lourd en attaque, genre ballon d'or, hein, le mec vraiment bien lourd, bien posé. Puis après, on a 3 bons en milieu de terrain, pour le tout venant un petit peu. Et puis on a 4 en défense à l'arrière. Donc ça, c'est une équipe équilibrée, tu vois, qui occupe bien le terrain, qui joue collectif, chacun sa place. Pourtant, le Pixel 6, lui, il a une puce qui opte pour une autre tactique, puisque Google fait du 2-2-4. Et là, on croit rêver quand même, hein, parce que, en gros, on a deux lourds en attaque, c'est énorme. Du coup, le milieu de terrain, bah, il est un peu léger, puisqu'il n'y en a que deux. Et alors, c'est pas tellement que ça marquerait pas comme équipe 1, mais il n'y a pas qu'elle est droite au but qui compte, tu vois, avec les deux lourds en attaque. Il y a aussi la gestion de l'équipe en général, parce que faut pouvoir se les payer, en fait, les deux joueurs stars en attaque. Tu vois, les poids lourds. C'est pas donné. Ça bouffe un max, niveau budget, ça tient pas forcément, quoi. Bon. Sauf, évidemment, si tu fais des grosses concessions. Donc là, ils ont fait des concessions sur le milieu de terrain, puisque les deux du milieu de terrain, tu vois, en gros, c'est pas des stars. Tu prends un peu des remplaçants, quoi, tu vois. Et finalement, tu mises un peu tout sur les deux ballons d'or à l'avant. Puis après, t'as toujours les quatre en défense à l'arrière pour les jobs qui sont moins demandeurs, quoi. Donc, ça me paraît un peu curieux quand même, puisque Google opte donc précisément pour deux gros cœurs X1, deux cœurs donc qui sont moyens en fait à 76. Donc c'est des cœurs qui sont un petit peu anciens en fait, hein, mais qui sont quand même gravés à 5 nanomètres chez Samsung. Toute la puce est gravée à 5 nanomètres, donc comme les puces Apple. Donc les deux X1, bah, les problèmes. Alors, pourquoi ? Parce que les deux X1, c'est des cœurs qui sont très puissants. C'est des puces de PC à la base. C'est des trucs qu'on met dans des PC portables. C'est destiné à aller dans des PC portables. Donc ça veut dire que ça va chauffer énormément. Mais du coup, pour essayer de limiter les dégâts, ils ont pris des A76 au lieu des A78, hein, qui sont les puces actuelles. Probablement pour limiter les dégâts. Puis après, ils ont des A55, ou je sais plus, mais vraiment, voilà, des puces assez faibles, de très faible consommation pour tout ce qui est petit travail, quoi, petit boulot. Donc, en gros, c'est un petit peu étonnant, parce que c'est un équilibre étrange, parce que ça donne une puce qui va dégager une puissance phénoménale, mais forcément pendant un temps limité. Parce que ça va chauffer trop et que ça va pas pouvoir tenir, ça va bouffer la batterie, ça va pas pouvoir tenir. Donc je pense que c'est des puces qui vont avoir des très bonnes puissances de crête, puis après, ils peuvent passer la main à des puces qui sont un petit peu plus banales, puisque la 76, et même éventuellement après les autres. Donc, écoute, il faudra attendre les matchs, pour voir s'il y a du beau jeu, évidemment, mais c'est quand même relativement marquant comme truc. On note quand même que Google met dans son Pixel 6 des puces avec des cœurs qui sont très puissants. Et c'est vrai que ça peut faire penser aussi à Apple qui met de toute façon des cœurs très très puissants dans ses iPhones aussi. Donc voilà, c'est un petit peu pour essayer de revenir sur le terrain de la puissance brute, quoi.
Et qu'est-ce qui pourrait justifier alors un tel choix ? Est-ce que, selon toi, c'est parce qu'ils veulent avoir un smartphone qui durera plus longtemps dans le temps et qui souffrira moins des futures évolutions d'Android ? Est-ce que ça peut être parce qu'ils ont des puissances de calcul encore plus importantes pour faire des photos encore plus incroyables ? Qu'est-ce qui peut justifier, du coup, un tel choix, selon toi ?
Bah, c'est jamais mauvais d'avoir d'avoir une grosse puissance d'attaque, quelque part. Hein.
Comme disait l'autre, plus c'est gros, plus ça passe.
Bah, de toute façon, ouais, les téléphones sont très là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas des machines qui, en général, doivent donner beaucoup de puissance pendant des temps très longs. C'est pas des moteurs de calcul, quoi. Je veux dire, c'est pas des bêtes de calcul. C'est des trucs qui doivent répondre très rapidement aux demandes. Donc le choix de mettre 2X1, bon, pourquoi pas, tu vois. Le truc, c'est que, bah, évidemment, ça chauffe, donc au plus c'est puissant, au plus ça va vite, mais au plus ça consomme. Donc au moins de temps, tu peux les utiliser, au moins de temps, tu peux l'utiliser, quoi. Donc, bon, on verra, pourquoi pas. Enfin, en tous les cas, la réactivité, voilà, Google a probablement la réactivité d'Apple aussi en ligne de mire, hein, c'est certain.
Bon, eh ben, on attendra les tests en bonne et due forme pour vraiment voir ce que ça donne au quotidien. Je sais que vous étiez vraiment là encore nombreux et nombreux à attendre ces nouvelles versions de Pixel. Je suis sûr que vous allez être ravis de vous les approprier. En attendant, on va passer donc sans autre forme de procès aux actus autour de la présentation Apple qui a eu lieu ce lundi soir. On va vite évacuer le fait qu'ils proposent un abonnement Apple Music à 4,99€ avec bon des restrictions, notamment le fait d'ailleurs de pouvoir écouter Apple Music que chez Apple. On aurait largement matière à discuter, mais avec ce nouveau forfait à 4,99€ par mois, tu ne peux écouter Apple Music que sur des produits Apple. Bref, ils ont aussi annoncé des AirPods 3. Donc tout simplement, imaginez que ce sont des AirPods Pro qui n'ont pas la réduction active de bruit, mais qui sont compatibles MagSafe comme les derniers iPhones. Et probablement la plus grosse info, des HomePod mini colorés, bon, qui sont très mignons, mais de là en faire news. Et donc surtout, des MacBook Pro avec des nouvelles puces M1 Pro et M1 Max. Donc deux tailles d'écran, 14 et 16 pouces, avec une occupation de la surface d'affichage plus grande qu'avant. En gros, c'est du quasi borderless hein, pour des écrans. Et donc, on verra ce qu'aura à dire le comité contre les encoches, parce qu'évidemment, qui dit écran plus grand dit il faut laisser une petite place pour la webcam. Non, et donc, mais... il y a une encoche. Je suis sûr que tu auras matière à dire sur le sujet. Mais quand même, des M1 Max qui proposent jusqu'à 32 cœurs GPU pour, d'après les indications d'Apple, plus de 10 teraflops avec ou sans cordon branché. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que sur le papier, ça a l'air d'être des monstres de puissance qui ne perdent pas de puissance de calcul graphique, notamment quand ils sont sur batterie. Donc, que vous soyez sur secteur ou sur batterie, a priori, ça fonctionne tout aussi bien. La question qu'on peut se poser malgré tout, c'est pourquoi autant de puissance ? Alors oui, il y a l'appellation Pro qui nécessairement est au traitement graphique, à de l'encodage, etc. Mais ça peut être aussi parfois, j'imagine, un peu frustrant d'afficher autant de puissance graphique pour ben, un environnement sur lequel il y a autant, aussi peu de possibilités de jouer. C'est-à-dire qu'on compare quand même des MacBook Pro et des PC gamers, alors que forcément l'écosystème n'est pas forcément le même sur le plan logiciel. Et il y a d'ailleurs un excellent papier de Cassim Ketfi sur Frandroid qui montre à quel point ça peut le frustrer d'avoir de tels résultats. Au passage, je voulais juste mentionner très rapidement la position d'Intel qui reconnaît eux-mêmes qu'Apple a fait du très bon travail avec le M1 et que bah, ça les challenge et qu'ils veulent reconquérir ce marché. Ils espèrent pouvoir reproposer des produits à l'avenir qui soient très performants pour Apple. En tout cas, c'est beau joueur du côté d'Intel. Forcément, Guillaume, tu as vu passer ces nouveaux MacBook Pro. Je suis convaincu que ces encoches t'ont particulièrement intéressé.
Non, mais...
C'est pas le truc majeur,
on va parler quand même tout de suite de ce qui fâche, effectivement, comme ça, ce sera fait. Oui, les MacBook Pro ont une encoche. Voilà, comme ça, je pourrais dire que dans ma vie de podcaster tech, j'aurais tout vu. Voilà. Donc, je me joue en CCE pour condamner vocalement ce choix de design foireux. Non, mais franchement, je trouve ça tellement idiot. Je veux dire, ils ont des écrans magnifiques, 120 Hz, mini LED, et ils le défigurent avec une encoche large en plus, hein. Tout ça parce que, soi-disant, ah bah ils sont bord à bord, alors on n'a pas la place pour la webcam. Non mais attends, c'est du foutage de gueule. Attends, le XPS 13 de Dell, le MateBook X de Huawei, ils ont des encoches ? Ben non, la caméra elle est rétractable. Et sinon, la Surface Pro X, ou le ZenBook 13, ou même des Chromebooks Asus, je veux dire, t'es pas à 3 mm près pour entrer une webcam sur un écran qui fait 14 ou 15 pouces. Les PC écrans borderless, ça existe depuis longtemps et aucun constructeur n'a jamais eu l'idée absurde de défigurer l'écran que tu veux justement mettre en valeur hein, avec le moins de bords possible, avec une encoche bien fat. Tout ça pour une webcam. Attends, vous nous vendez cher de l'excellence technologique et vous savez pas quoi faire avec une webcam ? Non mais allô quoi, si j'ose dire. Bon, bref.
J'étais certain que non, ça serait mais... Moi, je reconnais que je fais partie des gens qui sont pas plus dérangés que ça, mais je reste à peu près cohérent sur ce jugement.
Moi, c'est vite fait. Un Mac ou PC, je m'en fous. Un Mac, PC, ce que tu veux. Cher ou pas, un ordinateur avec un écran comme ça, j'achète pas. Moi, j'achète un PC avec un écran complet, tu vois, pas où il manque un bout, enfin, au milieu, ça c'est pas possible.
On peut peut-être, juste un détail, ils peuvent aussi, je sais que ça te convaincra pas, mais ils peuvent aussi se le permettre parce que il y a la fameuse barre en haut propre à l'interface de macOS qui fait que du coup ça s'intègre plutôt bien. Il faut reconnaître que c'est un endroit qui est pas très utilisé sur l'interface de macOS et derrière que ce soit des jeux ou des vidéos, bah tu l'auras pas parce que cette partie sera nécessairement noire. Donc bon, mais je comprends ton point et il peut tout à fait s'entendre Guillaume, mais c'est pas là-dessus qu'on va forcément concentrer l'essentiel de nos retours,
n'est-ce pas, là où Apple a fait du bon boulot. Oui, effectivement. Et pas juste recycler les designs discutables de ces vieux MacBooks, hein, parce que c'est vrai qu'on dirait quand même des vieux MacBooks et ou de ces iPhones.
Ils sont pas beaux, hein. Enfin, bah,
moi,
l'interface
ça me
globale,
déplaît pas pour le coup. Ils ont un design un petit peu plus anguleux. Moi, ça me déplaît pas, mais ça rappelle clairement des MacBooks d'il y a 10 ans. C'est marrant. Mais bon.
Et d'ailleurs, ils reviennent aussi en arrière sur la mise à disposition des ports. Ça, j'imagine que ça va te plaire.
Ah bah oui,
Exit l'USB-C obligatoire, mais il y a un port HDMI. Il y a un port USB-C de moins, mais il y a un port HDMI. Il y a encore ce bon vieux port jack. Et il y a même un port pour carte SD qui est très apprécié, notamment des photographes.
Non, mais ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Hein, je veux dire, il y a pas de problème. Et bon, bah oui, alors dedans, évidemment, les MacBook Pro, sans surprise, Apple passe sur des versions plus musclées de ses propres puces, avec la même architecture que pour les MacBook Air. Donc c'est du M1, donc en mode Max et Pro. Donc on va rester sur des niveaux de performance en monothread, hein, c'est-à-dire sur un seul cœur. Bon, ça va être des performances comparables, je pense, à fréquence égale, hein, sous-entendu. Donc les M1 étaient à 3,2 GHz, j'ai pas les fréquences du M1 Max et Pro, donc c'est pas clair que ce soit plus haut ou plus bas, je sais pas. Mais de toute façon, bon, le surcroît de puissance, il vient du nombre de cœurs, hein, clairement, donc autant CPU que graphique. Donc de ces versions en fait, hein, qui se contentent finalement de deux cœurs économes, parce que bon, après ça peut pas, je suppose qu'ils se sont remarqués que ça suffisait pour la majeure partie des trucs. Par contre, ils poussent à 6 ou 8 le nombre de cœurs performance. Donc côté CPU, hein, et ils poussent par contre même encore plus loin le délire côté GPU, puisqu'ils vont jusqu'à 32 cœurs GPU pour, tu l'as dit, 10 teraflops annoncés depuis performance théorique, ce qui la place quand même juste en dessous d'une RTX 3060, qui est autour de 13 teraflops. Alors c'est comparable, hein, sur...
On peut le dire, c'est le type de carte graphique qui est typiquement installé dans des portables pour ces jeux, pour les PC.
3060, c'est dans des PC de gamer. 3 teraflops, donc c'est des teraflops où on parle de puissance de calcul shader 32 bits. Hein, donc c'est une mesure parmi d'autres, en particulier Nvidia et Apple ont aussi des cartes Neural Core ou Tensor Core qu'il faudrait comparer à part. La RTX a des RT Core qu'Apple n'a pas, mais bon bref, voilà. Disons que pour le jeu vidéo standard, on va dire, il semblerait qu'on soit dans les eaux d'une RTX 3060. Et c'est assez incroyable, hein, parce que, enfin, pour une carte graphique intégrée, c'est incroyable. Jamais personne n'avait osé proposer hors console de jeu, donc hors vraiment scénario très particulier, un système sur puce avec une partie graphique aussi musclée. D'autant que le goulet d'étranglement traditionnel de ce genre de puce, qui c'est la bande passante mémoire en fait, hein, puisqu'elle est partagée entre le CPU et le GPU a beaucoup plus de besoins que le CPU, donc en général on a plutôt des bandes passantes typiques CPU. Là, on a un bus qui est extrêmement large de 512 bits vers donc le pool de mémoire unifié, et donc on a une bande passante de 400 gigaoctets secondes dans les configurations les plus élevées. Ça fait 6 fois celle du M1, donc c'est assez impressionnant, il faut le dire. Alors côté CPU, bon, on sait qu'en monothread, on va avoir les mêmes performances que le M1 peu ou prou, je pense, donc ça veut dire qu'on est au coude à coude avec un i7 11700K ou un Ryzen 7 5800X. Et en multithread, en fait, on sait déjà que le M1, il était deux fois moins puissant qu'un Ryzen 7 7800X, ce qui est normal, hein, puisque c'était des octos. Hein. Les Ryzen 7 sont des octocœurs, et le M1, lui, avait que 4 cœurs performance. Bon, du coup, grosso merdo, on peut s'attendre à ce que les M1 Max et Pro rétablissent largement l'équilibre, hein, puisque eux, ils ont entre 6 et 8 cœurs performance. Même s'ils perdent deux petits cœurs, ça va pas peser bien lourd. Donc en gros, les M1 Max en plus pourraient bénéficier du bus à 512 bits côté CPU aussi, pour creuser encore un peu plus l'écart. Donc on verra les benchmarks. Après, je m'attends à des M1 Max qui soient dans les eaux, donc un peu plus, un peu moins, un peu en dessous, hein, d'un CPU comme le Ryzen 9 5900HX qui est cadencé à 3,7 GHz de base. Donc on verra aussi les fréquences du M1 Max et Pro, quoi. Mais bon, voilà, ce sera dans les eaux de la concurrence. Donc du très haut de gamme de la concurrence, mais en consommant beaucoup moins. Et donc ça, c'est comme pour le M1 en son temps, en fait, hein, c'est sur la performance par watt qu'Apple va gagner, plus que sur la performance brute, qui sera peu ou prou comparable au très haut de gamme de la concurrence. Mais si on consomme deux fois moins, c'est quand même très fort. Et là, je parle que du CPU. Parce que si on parle de la totalité du système sur puce, là, c'est carrément différent, parce que là où Apple fait fort, indéniablement, si on en croit ses graphiques, si on en croit les données qu'il donne, hein, c'est sur la consommation totale du M1 Max, c'est-à-dire CPU plus GPU, puisque ça dépasserait pas les 60 watts. Or, un Ryzen 9 couplé à une RTX 3060, pour donner un truc équivalent, ça consomme pas 60 watts, hein, ça consommait facilement le double. Donc, comment c'est possible? Le premier point, c'est que déjà, le M1 Max, c'est donc comme le M1, c'est gravé sur du 5 nanomètres, alors que la concurrence, elle est sur du 10 nanomètres super fine ou du 7 nanomètres. C'est des process qu'on sait moins efficaces, de toute façon, donc ça, c'est un avantage indéniable. Et ensuite, il y a l'intégration qui aide. C'est-à-dire, sur un PC de joueur, typique, hein, où on trouve une 3060, c'est une puce à part, la 3060. C'est un processeur à part. Donc, t'as le GPU, hein, et c'est une puce différente, avec sa logique, sa RAM, donc elle est d'un côté, et le CPU, qui est en général aussi d'ailleurs une GPU intégrée, qui est utilisée quand on joue pas, hein, et elle est de l'autre côté, avec sa propre RAM, etc. Donc en gros, il y a pas mal de redondance là-dessus, et puis voilà, c'est assez gros, évidemment, et c'est plus encombrant. Et donc si on fusionne tout sur un même système sur puce, CPU et GPU, ils peuvent partager beaucoup de logique. Le CPU a plus besoin d'avoir d'une GPU intégrée, déjà, de base. Les bus sont les mêmes, tout le monde bénéficie du 5 nanomètres, c'est tout optimisé, et il faut bien reconnaître, hein. Donc ça, c'est quand même un bel avantage, et puis... Finalement, évidemment, l'architecture ARM implémentée par Apple, elle est très efficace et les GPU aussi, hein, donc aussi bien processeur que graphique, et donc ils réussissent vraiment à très bien tirer parti de ces deux autres avantages donc cités, hein, donc c'est vraiment l'intégration verticale finalement et la quasi-exclusivité des meilleures chaînes de fabrication de TSMC, grâce au poids économique hein, qu'ils représentent, bah, ça avantage énormément Apple. Bon, évidemment j'attends de voir les benchmarks, mais il est bien possible qu'Apple propose du top au niveau CPU combiné à du bon milieu de gamme en GPU avec une consommation, enfin un rapport performance par watt quoi, qui soit très 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 au-dessus de la concurrence. Mmh. Bon, moi je pense qu'il faut relativiser un petit peu, mais
Ah, j'attendais cette partie-là.
Non, mais après il faut relativiser, pas forcément sur tout ce que je viens de dire. Je pense qu'effectivement c'est des puces qui sont très impressionnantes, qui seront assez impressionnantes et voilà, qui seront très puissantes. C'est ça, je reviens pas dessus. Après, je pense qu'il faut relativiser parce que tout ça c'est pas gratuit quoi. Voilà le truc. Alors, déjà financièrement, quand même il faut
hein au sens propre, au sens premier du terme. C'est... Effectivement, c'est des machines qui sont pas forcément données, forcément. C'est sûr.
Bah écoute, on va faire un petit peu de trucs, hein. Puisque tout à l'heure je parle uniquement du haut de gamme, hein, du M1 Max. Mm. Bon, sous-entendu donc 10 cœurs CPU, 32 cœurs GPU. Et ça c'est une machine qui démarre à $3,100 quand même, hein. Avec 32, oui, hein, c'est voilà, avec 32 gigas de RAM et 512 gigas de SSD, donc autant dire $3,300, puisque vous allez certainement vouloir au moins un téra de SSD, hein, soyons clairs. Or, ben, $3,300 hors taxe, hein, bien sûr, donc ça veut dire facilement 3,300 € chez nous, c'est pas cadeau. C'est même plus cher qu'un ROG Strix SCAR 15, qui est équipé d'une RTX 3080, tu vois, et d'un Ryzen 9 5900HX. Alors, c'est sûr que ça va consommer beaucoup plus, un ROG Strix, mais la RTX 3080, c'est quand même deux fois la puissance du M1 Max, hein, et il y a du ray tracing en prime. Donc, en gros, le ticket d'entrée des MacBook Pro, c'est 2000 balles, $2,000 hein, hors taxe. Sauf que vous allez vouloir au moins un téra de SSD, donc j'ai déjà dit, donc ça veut dire que c'est $2,200. Et puis si vous voulez profiter des beaux jeux sur votre machine avec une belle carte graphique, eh ben, il vous faudra aussi prendre 32 Go de RAM, parce que la mémoire étant partagée, tes 16 Go de RAM servent aussi à la GPU, c'est aussi la VRAM, et donc voilà. Donc si tu fais ça, si tu veux 32 Go de RAM, ben là tu passes direct à $3,100. La première machine à 32 Go était en $2,900. Et $3,100, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup même pour un PC de joueur. Hein. Tu trouves des configurations très sympas pour $2,000, voire moins. Et c'est là aussi que moi, je vois les limites de ce modèle. Quoi. Parce que, comme pour le M1, tu pourras pas upgrader ta RAM. Parce qu'elle est incluse dans la puce. Hein. La RAM, elle est soudée. Elle n'est même pas soudée, d'ailleurs. Elle est incluse dans la puce, dans le processeur. Donc, le passage de 16 à 32 gigaoctets sur le M1, par exemple, sur le RAM Max, par exemple, il était facturé $400. Si tu optes pour 16 gigaoctets et que c'est trop faible à un moment, ce sera tant pis pour toi. Alors, c'est vrai qu'Apple propose un choix relativement large, mais bon, comme il doit produire une puce différente pour chaque configuration, ben, il ne peut pas y avoir une granularité équivalente à ce qu'on trouve traditionnellement chez les PC. Parce qu'en gros, il y a quand même une bonne raison hein, pour laquelle personne ne produit de CPU avec des GPU intégrés aussi puissants, c'est parce qu'industriellement, ça n'a pas de sens. Industriellement, c'est chacun son boulot. Les fabricants de CPU, ils veulent intégrer leurs puces dans un maximum de configurations variées, à charge aux constructeurs de PC de faire appel à des spécialistes des GPU pour voilà, faire sa sauce et proposer des options diversifiées à ses clients. Donc l'industrie, ça fonctionne de cette manière depuis toujours sur PC, hein, parce qu'avant, les PC, on dit que c'était les compatibles PC. Il y avait compatibles dans le nom, tu vois. Donc, le monde PC, il est interopérable. Donc, tu peux avoir une puce Intel avec une carte AMD, tu peux avoir de la RAM Samsung, un écran Sharp ou LG, c'est ce que tu veux. Bon. Apple, ben, il a toujours été un peu à contre-courant de ça, et là, désormais, il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il maîtrise absolument tout, du plus petit détail de la coque, aux unités de calcul de GPU, l'interconnexion de la RAM, le système d'exploitation, le navigateur, tout. Alors, évidemment, ça a ses avantages. Hein, tu peux optimiser la synergie logiciel-matériel, tu peux te permettre de mettre des GPU intégrés monstrueux si tu en as envie. 57 milliards de transistors sur le SoC, c'est quand même énorme. Bon, tu peux tout optimiser, tu peux proposer des produits qui sont objectivement bons. C'est vrai, l'hégémonie, ça a du bon. Mais pas que. Parce que Apple peut faire tout ça parce qu'il est extrêmement riche. Parce que ça coûte extrêmement cher hein, de concevoir des puces. Hein. Je te raconte pas les contrats avec TSMC aussi pour avoir les exclus, etc. Bon. Apple contrôle absolument tout, ce qui veut dire aussi que vous, en tant qu'utilisateur, ben vous contrôlez moins de choses. Vous vous foutez d'avoir un écran 100 Hz, vous voudriez avoir une machine moins chère, ben pas possible. Vous voulez pas d'encoche, pas possible. Non mais ça a l'air con, mais admettons, science-fiction, je suis un aficionado d'Apple, moi. Je veux dire, je suis un aficionado de mode, j'ai toute ma vie chez Apple. Là, ils me sortent un truc avec une encoche, ça m'emmerde. Mais je suis obligé de prendre un truc avec une encoche.
Je suis très réservé sur ces derniers éléments que tu mets en avant, qui sont effectivement le reflet d'une philosophie, parce que je pense que c'est un point qu'il faut souligner. Je trouve que c'est la première fois, à part évidemment certains produits assez anecdotiques qui ont été lancés par le passé par Apple, mais c'est la première fois que un produit a une appellation pro à juste titre. Je trouve que ça reste des MacBook Pro pour certains usages très puissants. Et après tout, si tu veux du Apple et que tu veux pas d'encoche et que tu as pas besoin d'une puissance pareille et que tu veux beaucoup moins cher, moi, t'as les Mac Mini et t'as les MacBook Air qui sont plus des machines au rabais d'après les dernières propositions qui sont faites. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais t'as pas vraiment d'entre deux, tu vois. Et puis t'as quand même de toute façon moins d'options. Je veux dire, tu veux du tactile, c'est pas possible. Tu veux rajouter de la RAM, c'est pas possible. Tu voudrais avoir un disque dur de 4 téraoctets, mais un petit SSD parce que tu veux juste stocker des trucs et que t'as peut-être pas 1 200 $ à mettre dans un SSD de 4 téraoctets, eh ben, c'est pas possible. Tu veux un lecteur d'empreinte digitale? T'es assez pro, hein. Tu veux un lecteur d'empreinte digitale? C'est pas possible. Tu veux jouer avec du ray tracing? Pas possible. Tu voudrais pouvoir dépanner ton ordinateur? Je parierais que ce sera pas possible. Bientôt, alors quoi? Installer des logiciels hors Mac App Store? Pas possible. Linux? Pas possible. Bon. Écoute. Vous voyez où je veux en venir, hein. Les MacBook Pro sont de très bonnes machines. Je pense qu'ils vont avoir un rapport performance par watt très impressionnant. Mais fondamentalement, j'ai toujours ces mêmes problèmes avec cette philosophie parce que je trouve pas très sain, industriellement parlant, qu'un acteur fasse autant cavalier seul. Apple est pas juste un constructeur, hein. Tu peux pas comparer à Apple à Dell, tu vois, ou à Acer, ou même à Microsoft, en tout cas pas encore. Apple, c'est son propre univers. Dans l'univers PC, il y a des milliers d'acteurs. Dans l'univers Apple, il y en a un seul. Bon, là je parle d'Apple évidemment, mais d'autres essayent de prendre le même chemin petit à petit avec plus ou moins de succès. Bon, écoute. Oui, l'hégémonie a des avantages. Enfin, ça reste une hégémonie et elle se fait toujours dépendre de quelque chose.
Ouais, c'est sûr. Bah, c'est pas une nouvelle philosophie qu'on découvre. C'est clairement une philosophie qui est accentuée. En tout cas, j'ose imaginer que si vous avez des besoins de production graphique avec une certaine puissance et que vous étiez déjà dans l'univers Apple, je pense que vous allez forcément vous réjouir. Et j'imagine que les kikimetteurs vont s'en donner à cœur joie à coup de benchmark. On les relaiera à l'occasion, mais effectivement, ça remet pas en question les principes un peu philosophiques de ces guerres technologiques qu'on relaye déjà depuis si longtemps. Effectivement. Merci beaucoup Guillaume pour avoir suivi ces annonces qui restent passionnantes dans le fond de toute façon. On va passer à une autre rubrique tout aussi passionnante parce qu'on a une actualité sociétale assez importante avec la titularisation de Maria Ressa avec un prix Nobel, le prix Nobel de la paix qui est très très directement tourné contre l'infox, Guillaume.
Oui, bah oui, en ce moment la lutte contre la désinformation, ça prend vraiment le devant de la scène, hein, parce que c'est vrai, le prix Nobel de la paix vient d'être décerné donc à Maria Ressa et Dmitri Muratov. Bon, lui, il est rédacteur en chef de la Novaya Gazeta en Russie, qui est un journal d'opposition, non affilié ni influencé par le pouvoir central, donc c'est un boulot qui ne doit pas être facile à Poutine Land.
On se demande si c'est vraiment possible.
Comme quoi, non mais tu vois, c'est prix Nobel quand même. Et donc elle est américano-philippine, donc c'est un vétéran du journalisme d'information. Elle a passé 20 ans chez CNN, à Manille et à Jakarta. Donc elle a mouillé plusieurs fois des gros bonnets en Asie du Sud-Est, dont le président philippin d'ailleurs. Et voilà, elle a eu plein d'ennuis, d'ailleurs, que d'aucuns ont interprété comme découlant directement de ses publications. Donc elle a écrit des trucs, elle a écrit deux bouquins aussi sur le terrorisme dans la région. Et dernièrement, elle est encore accusée de cyberdiffamation, elle est très critique hein, sur le régime de Rodrigo Duterte. Bon, elle a fondé un journal qui est un Rappler. C'est un journal qui est plutôt centré sur l'Asie du Sud-Est d'ailleurs, mais bon, c'est pour ça qu'on connaît pas du tout. Enfin, en tout cas, moi je connaissais absolument pas. Donc, c'est une journaliste très engagée, très respectée. Elle a eu plein de récompenses diverses. Hein. Mais un de ses chevaux de bataille, c'est la désinformation et leur propagation sur les plateformes en ligne, donc Facebook entre autres, hein, pas seulement, qui sont pour elle donc une menace pour la démocratie dans le monde entier. Donc, lorsqu'elle dit ce sera pas complètement nouveau pour vous, hein. Je peux le résumer en transcrivant, je pense, rapidement une interview. Alors, c'est une interview que vous pouvez retrouver sur le site de Fast Company, et bon, évidemment, le lien est dans les notes de l'émission. Donc, pour elle, voilà, on était à un moment critique, comme il en arrive une fois par siècle, à un moment où tout est renversé. C'est-à-dire que les journalistes doivent accepter qu'ils ont perdu le pouvoir, depuis un moment déjà, depuis 2014 à peu près. Ce pouvoir est désormais entre les mains de la tech, des médias sociaux. Facebook est désormais le plus gros pourvoyeur d'informations en volume. Et voilà, donc la tech a pris l'argent. Par contre, ils n'ont pas pris les responsabilités qui vont avec. Donc, pour illustrer l'ampleur des décalages de notre époque, il y a un biologiste d'Harvard qui qui appelle notre époque le i-anthropocène, donc i-anthropocène, et qui l'a défini comme une chimère, en fait, avec des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et un pouvoir technologique quasi divin. Donc cette tech qui relaye désormais les infos, non seulement elle ne le fait pas, enfin, elle ne fait pas de différence entre la fiction et la réalité, mais elle est même biaisée contre la réalité, puisque les mensonges et la haine, la controverse d'une manière générale, se propagent plus vite sur les réseaux sociaux que les faits, ce qui les encourage justement à leur donner la priorité. Et donc pire que ça, les plateformes vous connaissent mieux que vous-même en modélisant votre comportement, et ils vous présentent très exactement ce qui vous fera réagir plus, en info comme en pub d'ailleurs, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Ou si ça vient d'un état, bah, évidemment c'est de la propagande ultra ciblée, et donc ultra efficace. Donc elle donne l'exemple du mythe trumpien de l'élection volée, donc elle dit qu'aujourd'hui un mensonge répété un million de fois devient effectivement une vérité. Mais le problème, c'est évidemment sans base de faits, reconnue, acceptée, il n'y a pas de confiance, pas de débat constructif, pas de démocratie, et aucune chance de trouver des solutions aux multiples problèmes de notre époque, hein, et les gros, hein, comme virus, changement climatique, ce genre de trucs. Et donc pour reconquérir cet espace mental, on doit vaincre les faiblesses de la biologie, ce qui passe aussi par arrêter de réagir à chaud, arrêter de réagir en permanence, tout le temps, de réagir et de réfléchir vite. En particulier sur les plateformes en ligne, qui justement sont designées pour nous encourager à le faire. Donc pour elle, la solution, elle passe par la tech aussi. Parce qu'il ne faut pas laisser la tech décider seule quoi faire avec l'info. Donc les journalistes ont donné de leur plein gré à leur communauté, par les instant articles, par les boutons share de tous les côtés, etc. La tech est là pour rester, hein, mais on ne peut pas se contenter de la laisser faire ce qu'elle veut en toute impunité, sans responsabilité, sans aucune valeur, sans aucune morale, sans aucune humanité en fait. Parce que les journalistes, eux, sont des humains, alors ils ne sont pas parfaits, mais ils font leur boulot avec des valeurs, avec leurs valeurs. Ils doivent prendre leur responsabilité aussi, quitte à avoir des ennuis et à la lancer quelque chose. Donc elle insiste sur le fait qu'il faut renforcer le journalisme d'investigation, le journalisme sourcé et de qualité, un journalisme parce qu'il a une mission cruciale, qui n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Voilà, donc un combat qui s'annonce difficile, mais si on peut conquérir nos peurs, alors plus rien ne peut nous abattre. Fin de citation.
C'est probablement le truc le plus assommant, c'est effectivement de réaliser que le journalisme est devenu une activité militante plus qu'une activité d'information, comme ça pouvait être le cas auparavant, effectivement. Alors justement, dans ce domaine-là, il y a quelque chose d'assez captivant que tu vas pouvoir nous relayer. Alors moi, je t'avoue que j'ai énormément, j'apprends toujours énormément avec les préparations de ces émissions, Guillaume, mais alors là, j'étais complètement limite sur le cul d'apprendre à quel point la désinformation qu'on a très souvent relayée dans Tech Café, notamment à l'aune de l'élection de Donald Trump, avait des énormes racines, non pas dans les ingérences russes, mais beaucoup plus simplement au travers d'un acteur presque de désinformation, organisé bien entendu, mais un acteur qui se dévoile et se met à visage découvert, Guillaume.
Ben oui, ça illustre bien ce qu'on vient de dire sur la désinformation et sur les conséquences qui sont très réelles en fait et très importantes qu'elle peut avoir, puisque on a l'occasion de revenir un petit peu sur l'élection de 2016 et sur les campagnes de propagande massive qui l'ont précédée. Alors pourquoi revenir dessus maintenant ? Parce que c'est l'automne.
Parce que c'est de l'histoire lointaine maintenant. Tu te rends compte, c'était il y a 5 ans.
Oui, c'est vrai, c'est déjà ça, c'est vrai. C'est très vieux. C'était le monde d'avant. Mais bon, en tous les cas, c'est peut-être aussi la saison des lanceurs d'alerte, puisqu'il y en a un autre qui s'est fait connaître. Cette fois, c'est Robert Willis. Robert Willis, vous le connaissez pas, c'est parfaitement normal. Aujourd'hui, il est devenu un hacker éthique assez confidentiel, mais ce gars, avec une petite équipe évidemment, il a très certainement fait plus pour l'élection de Donald Trump que toutes les firmes à trolls russes ou Julian Assange. Alors, c'est difficile à évaluer précisément, évidemment, mais il a quand même géré et coordonné une constellation de dizaines et de dizaines de sites de désinformation et de groupes Facebook destinés à torpiller Hillary Clinton, et donc à booster Donald Trump pendant 2 ans. Et au vu de leur reach, comme on dit, l'influence qu'il a eue sur l'opinion publique américaine est sans doute loin d'être négligeable. Alors Willis, c'est qui ? Willis, c'est un hacker libertaire, républicain de cœur, au moins. En tout cas, il est anti-establishment, et comme Hillary, elle sent autant l'establishment que le placard de mamie sent la lavande, il accepte un job en 2015, c'est Natural News, sans déconner. Donc on connaît le vrai nom de ce truc depuis hier, avant c'était confidentiel, donc chez Natural, donc, on lui dit qu'ici, il pourra lutter, il pourra aider à stopper Clinton. Donc Willy, c'est un codeur, il a un hacker doué, il a des connaissances poussées en réseau, en sécurité informatique, et en plus, il est extrêmement doué en SEO, en Search Engine Optimization. Donc c'est exactement la personne recherchée par Natural News, car son job va être un peu spécial, et il doit rester strictement confidentiel. Son job, c'est de créer de toutes pièces et administrer des dizaines de sites d'information qui sont censés se répondre. C'est reprendre les articles des uns et des autres, ou faire référence à ces articles. Ils y ont aussi, bien sûr, avec des comptes Facebook associés, des groupes, etc. Donc au début, en fait, on est très dans l'anti-Clinton pur et dur, et Willis s'éclate, en fait. Hein. Puis petit à petit, les articles se diversifient, basculent de plus en plus dans le n'importe quoi, comme les citrons contre le cancer. Bon, Willis y croit pas une seconde. Hein. Pas plus que ses collègues, d'ailleurs. Mais tant pis. Robert a beaucoup de boulot, parce qu'il doit administrer sa constellation de sites de manière à ce que les liens qu'il y a entre eux soient complètement indétectables. Donc chaque site a un serveur séparé. Il s'y connecte via un VPN, dont il change de pays en permanence. Sur Facebook, il en arrive à acheter des piles de SIM prépayées pour ouvrir des comptes. Il en arrive à falsifier des numéros de sécurité sociale quand c'est nécessaire.
Et c'est un boulot de dingue. Hein.
Ah, c'est un boulot de dingue, mais clairement, t'imagines, c'est community manager, mais puissance, je sais pas combien. Ouais. Quoi. Et donc, en plus, la méthodologie s'affine au fur et à mesure, puisque les histoires qui sortent sont triées selon le contenu et l'heure de parution. Par exemple, les positives, c'est en matinée, les impactantes, c'est en début d'après-midi, et le nawak, c'est pour le soir. Et ça marche très bien, en fait. Hein. Les sites et les groupes se répondent, se justifient les uns les autres, collectivement. Et Natural News, bah, il atteint 30 millions de personnes par semaine. Facebook leur redirige énormément de trafic. D'ailleurs, il a viré jamais aucun groupe. Et en 2 ans, il a bloqué qu'un seul post. Sur combien de milliers, va savoir. Donc, non seulement les sites de fake news font une propagande tout azimut pour Trump, mais en plus, bah, évidemment, ça rapporte aussi beaucoup d'argent du même coup. Donc, de toutes les organisations pro-Trump, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, aucune n'est aussi extrême que celle où bosse Bobby Willis. Même s'ils savaient bien que tous ces millions de gens exposés à des mensonges anti-Clinton ou autres, hein, bah, ça allait bien avoir un impact. Il y a cet aspect succès, cet aspect high score, si tu veux, où chaque semaine on attend plus de personnes que la précédente. Mais tout ça, ça l'emporte jusqu'en 2017, où Robert démissionne hein, pour devenir donc hacker éthique. Donc Trump est élu, personne n'a rien vu. Personne n'a vu que tous ces sites n'existaient pas. Qu'en fait, c'était juste les multiples façades d'une seule et unique ferme fake news. Alors pourquoi Willy s'expose aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Des remords peut-être.
Sans doute une forme de repentance, oui.
Il a quand même expliqué qu'avant de tout révéler dans un livre, il a tout avoué à sa famille, qui a été très exposée jusqu'au lavage de cerveau, c'est lui qui le dit, par les fake news. Et à ce jour, son père ne le croit toujours pas. La manipulation de Willy, ça a trop bien marché.
Ouais, c'est assez incroyable de lire cet article. Il y a cette scène complètement dingue où il y a les mecs qui débarquent dans son bureau et qui disent « Mais tu crois pas sérieusement à ce qui a été diffusé ?»«
Mais bien sûr, quoi.
Bien sûr que non » raconte-t-il. Et bon, c'est assez édifiant et effectivement, on revient de loin en matière de peut-être d'ingérence russe, même si évidemment, ils ont dû aussi avoir leur part d'action. Les proportions sont évidemment difficiles à identifier. Peut-être que le temps nous permettra d'en savoir plus aussi. Ça devient encore une fois, comme je disais, un travail d'archéologie, d'histoire plutôt. C'est intéressant. Allez, on continue un petit peu avec Facebook, qui a été forcément un terreau fertile pour cette désinformation, comme tu l'as rappelé, parce que là, ça y est, on en sait un petit peu plus pour les agendas à l'avenir de Facebook, Guillaume.
Ouais, bah, un des principaux atouts des réseaux sociaux, c'est d'offrir en publicité, un ciblage précis. C'est ça qui monétise cher et qui fait leur fortune.
Absolument.
Bon, alors justement, du coup, on peut se poser la question, précis comment, en fait ?
C'est bon. Moi, j'avais un mythe, mais il y a ça très longtemps, hein, où on pouvait faire. Enfin, c'était pas un mythe d'ailleurs. C'était les débuts des ce qu'on appelle les audiences personnalisées, donc les custom audiences, où en gros, alors ça, les custom audiences, ça consiste à mettre en ligne chez Facebook des listings de données, et après Facebook te dit en face de ces données, il les hache et il te donne en face des audiences qui correspondent aux gens qui sont présents sur Facebook et qui ont les mêmes données que ce que tu as envoyé. Et il y avait le mythe, mais qui a dû exister pendant un temps, du fait de pouvoir cibler une seule personne avec ce type de ciblage. Mais justement, ça fait écho un petit peu à ce que tu vas, à ce que tu vas nous dérouler.
Ben complètement. Alors effectivement, tu dis, on peut cibler des petits groupes de personnes, mais petit à quel point? Ben écoute, il y a des chercheurs chercheurs autrichiens et espagnols qui répondent à cette question, à quel point on peut cibler précisément. Leur réponse en termes techniques, c'est très très beaucoup trop précis, parce qu'il est possible de cibler une personne en particulier. Et pour ça, il suffit de connaître 4 de ces centres d'intérêt, si c'est des centres d'intérêt pas communs, ou 22 si c'est des centres d'intérêt beaucoup plus courants. Bon, c'est assez intuitif, hein. Si vous aimez le cinéma et les jeux vidéo, ça va pas aider énormément, tu vois, le cinéma.
Et que vous écoutez Tech Café.
C'est ça. Par contre, si vous êtes tapas botuphile, dendrophile, numismate, là, par contre, ça va dégager pas mal de monde.
Ah, je vous mets au défi de savoir de quoi Guillaume a parlé, je sais pas.
Moi aussi.
Numismate, oui, mais les autres, je ne sais pas.
Tapas botuphile, dendrophile. Allez-y.
On attend vos commentaires.
Donc, l'article montre qu'il est possible d'utiliser la plateforme de pub Facebook en contournant les limites de taille des populations ciblées pour cibler une personne en particulier. Donc là, ils ont réussi à cibler les auteurs de l'article. Ah, si seulement Spinner avait su ça. Je sais pas si on avait parlé de Spinner, probablement pas. Spinner, c'est quoi? C'est une start-up qui, en 2019, proposait tout simplement de laver le cerveau de ta femme ou de ta copine pour faire l'amour avec toi. Je cite le VP de Spinner.
Je sais pas, c'est génial.
C'est véridique, hein. Pour $29, Spinner envoie un lien par message direct sur le compte de ta femme. Si elle clique dessus, elle chope un cookie. Et ce cookie permet à Spinner de lui envoyer une dizaine d'articles sur le sexe. Genre, le sexe c'est bien, faut en avoir plus. 180 fois en 3 mois, dans plein de contextes différents. C'est dingue, hein?
Je note.
Et donc, si ta femme avait 4 centres d'intérêt hors du commun, en fait, on aurait même pu se passer du cookie. C'est quand même c'est assez extraordinaire. Mmh. Bon, donc en gros, en moyenne, hein, si on connaît 18 centres d'intérêt ou plus d'une personne, le nano-ciblage est très possible, puisque sur 8 des 9 campagnes, on atteint leur cible. Donc, rassurez-vous un peu quand même, en Europe, les centres d'intérêt sont des données personnelles au titre du RGPD, donc vous ne pouvez pas utiliser ça quand même. Et bon, puisque je parle du RGPD, je me demande un petit peu effectivement comment le RGPD va gérer le dernier projet de Facebook, qui est clairement une préparation à son entrée dans l'ère de la réalité augmentée, j'ai nommé Ego 4D. C'est peut-être de ça dont tu parlais au début.
Absolument.
Mais oui, Ego 4D, qu'est-ce que c'est qu'Ego 4D? C'est le nom du projet de recherche qui ambitionne de faire des algos qui comprennent les flux vidéo et audio pris à la première personne, que ce soit des robots ou des gens qui portent des lunettes de réalité augmentée. Donc pour le moment, Ego 4D, c'est surtout une grosse base de données de vidéos, donc des vidéos à la première personne, la plus grosse du monde, hein, avec des milliers d'heures de vidéos, complètement random d'ailleurs, pris par des gens payés ou des étudiants captifs, hein, de 13 institutions différentes. Et le but, c'est de reconnaître les tâches, les situations, les gens, les objets, de contextualiser tout ça, c'est où on est, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle, de qui parle-t-on, qui parle, voire qui parle de quoi, ou même qui parle de quoi quand. Tout ça, c'est extrêmement compliqué à faire, évidemment. Et bien sûr, l'objectif, ça va être d'anticiper, il y a plusieurs objectifs, évidemment. Un des objectifs, c'est de retrouver des choses qu'on a dites, par exemple, ou des choses qu'on a faites. Et un autre objectif, c'est d'anticiper. Anticiper ce dont on va avoir besoin, ce dont on va parler, où on va aller, etc. Donc c'est super ambitieux, et l'objectif ultime, c'est de vous permettre encore plus de vous passer d'avoir un cerveau. Bon, j'avoue que moi déjà j'aime beaucoup avoir complètement perdu les capacités de se souvenir d'un numéro de téléphone, parce qu'évidemment je n'ai plus besoin, mon téléphone le fait. Mais bientôt je pourrais aussi complètement perdre la capacité de savoir où j'ai foutu mes clés, où est-ce que j'ai rangé mon thermomètre, etc. Bon, j'exagère pas, puisque bon, la vidéo de pub en fait d'Ego 4D présente un cas d'usage où l'intelligence artificielle se souvient à votre place où vous avez rangé la montre de grand-mère. Un autre, c'est comment régler le four, ou alors les ingrédients d'une recette. Donc je suis sûr que vous avez hâte, hein, de porter en permanence des caméras sur votre nez qui scrutent 100% des moments de votre vie et de celle de vos proches, et les fait analyser dans les data centers Facebook pour ne plus jamais avoir à se souvenir sur quel thermostat cuire la quiche. Ça, c'est quand même un truc... Hein... je pense que c'est quand même un truc impressionnant. Alors, bon, franchement, hormis pour améliorer d'ailleurs les perceptions et amélioration des robots, les cas d'usage qui sont présentés sont un peu ridicules. Enfin, je veux dire...
J'y vois un cas d'application pertinent, mais qui est évidemment probablement pas celui qui est poursuivi dans le cadre de cette démarche, mais c'est les difficultés grandissantes autour des maladies cognitives, les maladies d'Alzheimer notamment, qui amènent à avoir des situations de vie assez difficiles, assez dangereuses. Et je peux imaginer que dans ces cas-là, pendant une période donnée, ça peut aider. Tu vois, je pense que ça peut aider à accompagner au quotidien. Maintenant, vraiment, je pense pas que c'est l'ambition de
ce
projet.
C'est pas du tout ce qui est montré, en fait. C'est pas du tout ce qui est montré. Bon, en plus, quand tu mets en regard les sommets de complexité, de puissance machine nécessaire, c'est fou, attention, je veux dire. GPT-3, c'est que du texte, hein, et c'est 175 milliards de paramètres. À supposer qu'on arrive à faire ce qui est montré. Tu imagines des modèles qui analysent les flux audiovisuels, qui sont multimodaux, mais c'est des trucs à plusieurs milliers de milliards de paramètres. Entraîner ça, faire de l'inférence en temps réel avec ces machins, ben ça sera pas gratuit. Hein. Je veux dire, au niveau financier, au niveau temps de calcul, au niveau énergétique, ça sera pas gratuit. Hein. Alors, s'ils ont autant de moyens chez Facebook, pourquoi ils le mettent pas sur la modération d'ailleurs, hein, puisqu'il y a encore une autre fuite. Il y a encore une autre fuite cette semaine qui dit que leur algo vire que quelques pourcents des posts qui enfreignent leurs propres règles. Ça pourrait faire un SFS encore d'ailleurs, mais bon. Passons.
On en a trop.
Passons, on en a trop. Donc, quand tu mets en balance la somme complètement démentielle en plus d'informations personnelles que tu vas devoir offrir à Facebook, tout ça pour pouvoir améliorer ton quotidien en n'ayant pas te souvenir d'une recette de daube de poulpe, honnêtement, je sais pas. Est-ce que c'est pas du foutage de gueule, tu vois? Enfin, améliorer le quotidien. Enfin, oui, comme tu dis, améliorer le quotidien des gens qui ont des handicaps, qui sont dans des conditions particulières. Très bien. Mais monsieur tout le monde. Améliorer le quotidien des gens, de tous les gens. Moi, je vais te dire comment améliorer le quotidien du français moyen, hein, de tout le monde. Voilà, tu l'améliores en donnant les moyens de se loger, de travailler, de vivre correctement de son salaire, voilà, en leur offrant un cadre de vie sain et sûr, dans un environnement qui soit moins pollué, sur une planète qui n'est pas au bord de l'apocalypse. Ouais, voilà, comment c'est comme ça. Pas en uploadant H24 des téraoctets de vidéos chez Facebook pour qu'ils te recommandent l'achat d'un presse-agrumes quand tu vois boire un jus d'orange ou une capote quand tu te connectes sur Tinder. Bon, pardon, je m'égare, je m'emporte, désolé. Mais bon, voilà, j'ai rien contre la réalité augmentée en soi. C'est comme la VR, tu prends ton casque, tu fais ton truc, tu poses, ok. La réalité augmentée, c'est pareil pour certaines activités, certains boulots, certaines situations, ok, pas de souci. Mais là, c'est pas ce qui est montré. Hein. Ce qui est montré, c'est que tu dois porter quasi tout le temps tes lunettes de réalité augmentée. Sinon, comment Facebook, il sait où elle est la montre à mamie, si t'as pas vu la mettre dans le tiroir avant? Donc ça veut dire quoi? Être immergé en permanence dans le metaverse? Mais non, je veux dire, faut pas oublier que Ready Player One, c'est une dystopie, hein. Le monde de Ready Player One, il est atroce, en fait. Bon, écoute, on verra bien.
Oui, tout à fait. J'ai perdu la réaction que je voulais faire en rebond à cette section. Je reviens juste sur les éléments de ciblage juste avant. C'est une des raisons de plus qui montre à quel point Facebook n'a pas besoin d'avoir le micro tout le temps activé pour nous cibler de manière pertinente. C'est une raison supplémentaire. Et puis sur la réalité augmentée, ça me revient. La réaction que j'avais, c'est que j'en profite pour faire un petit peu d'autopromo aussi pour ReLife. Le prochain épisode, on va vous parler un petit peu de quelques pérégrinations autour de sujets écologiques. Et j'ai enfin réussi, j'avoue que je me suis fait violence, mais j'ai bien fait, à regarder des prises de parole de Jean-Marc Jancovici, parce que je trouve le personnage parfaitement désagréable et détestable, mais je pense qu'il maîtrise quand même largement son sujet. Et j'ai le sentiment aussi, quand on suit son analyse et l'évolution de la société dans lequel on est entré et dans lequel on va devoir rentrer, que ce type de sujet va nécessairement à terme passer à la trappe. Mais voilà, c'est mon côté peut-être un petit peu naïf et enthousiaste qui me fait voir les choses de cette manière-là. Et malheureusement, la dure réalité, c'est de voir que Facebook développe ces choses-là très activement. Allez, un autre sujet technologique qui va probablement brouiller notre perception de la réalité, Guillaume, c'est des nouvelles possibilités de modifier, tiens-toi bien, en temps réel, mais en temps réel, ce qu'on voit autour de nous. Donc imaginez-vous en cette période d'Halloween, évoluer dans la rue, et grâce à votre écran en réalité augmentée, vous avez les voitures qui ne sont plus des voitures, mais des citrouilles roulantes.
C'est fantastique. Ben oui, en attendant qu'Ego 4D aboutisse à la dystopie souhaitée, donc des chercheurs allemands s'amusent déjà très bien avec des trucs qui existent. Hein. Donc ils partent d'un constat banal, la réalité, c'est moche. Donc pourquoi ne pas y mettre un petit peu de magie, voilà, avec des algos? C'est pas si dur parce que des algos, il y en a déjà plein qui existent, hein. Il y en a qui reconnaissent les voitures, il y en a qui réussissent à effacer les voitures des images, il y en a d'autres qui reconnaissent aussi l'orientation de la voiture, et en fait, il y a même beaucoup de choses plus poétiques qu'une Volvo à mettre sur une route. Tu vois, un carrosse citrouille, un colibri géant, ce que tu veux. Bon, en mélangeant tout ça, en gros, les chercheurs ont conçu Transform VR. Oh, putain, si tu pouvais mettre des castors à la place des voitures, ça serait magnifique. Ou à la place des castors à la place des gens.
Donc, le monde se porterait mieux.
Donc Transform MR peut donc sélectivement.
Et donc pas Transform ta mère.
Donc Transform ma mère. Enfin Transformer. Bon. Donc Transformer peut sélectivement remplacer les voitures en carrosse, les gens en gobelins ou en robots, simultanément ou pas d'ailleurs. Donc pour le moment il y a deux options, une option rapide à 15 fps, une option qualité à 8 fps. Bon, dans les deux cas quand même ça se voit. Hein. on voit plus ou moins d'artefacts.
Oui, l'option qualité, elle est pas non plus trompeuse.
Voilà, puis c'est pas d'une fluidité incroyable. Il faut dire que tout repose sur le cloud. Bon, sans doute, hein, vu les multiples passes, donc un iPad, tout faire sur un iPad, c'est chaud. Donc ça limite aussi la résolution, mais ça préfigure peut-être concrètement une facette de ce futur multi, métaverse. Donc remplacer sa station de métro crasseuse par un paysage de haute montagne. Son open space par une caverne de trolls, sa belle-mère par Cruella et sa copine par Gal Gadot. Bon, ou bien tout simplement rendre un peu moins triste les bouchons, parce que finalement, c'est parce qu'il faut voir que c'est une recherche qui a été menée et financée par Porsche, le constructeur automobile, si. Et effectivement, rendre le trafic moins pénible, ben, c'est le point de départ de la réflexion. Donc ça se confirme. On prend la philosophie Ready Player One, en fait. Hein. On accepte que la réalité, c'est nul, et donc on met des trucs fun dessus. Tu vois, il y a des bouchons, ok. On n'essaye pas de remédier à ça avec transport public, rajouter des voies de circulation, des mesures... Non, rien à foutre. On met des carrosses à la place des Volvo et tout de suite, c'est la magie. Voilà. C'est comme dans le film. Tu vis dans un conteneur et toute ta famille vient de mourir. Mais c'est pas grave, je gère à fond dans l'Oasis.
J'ai d'autres idées que Cruella pour remplacer des images de belle-mère, en tout cas. Mais bon. Allez, un petit mot sur les ransomware, Guillaume.
Ouais, on regroupe un petit peu les deux news suivantes. C'est sous forme de deux records. Allez, alors, premièrement, premier record, hein, les ransomware. Donc, on sait qu'il y en a eu des caisses, hein, ces derniers temps. Oui, mais pour combien? Eh bien, le Trésor américain a des estimations de l'ampleur du problème et des sommes qui sont en jeu. Et donc, déjà, il y a 590 millions de dollars de transactions louches qui se sont baladées rien que de janvier à juin 2021. Et si tu regardes sur les trois dernières années, c'est pas moins de 5,2 milliards de dollars qui sont passés par les blanchisseuses à Bitcoin. Et ça, c'est rien que pour le top 10 des gangs de hackers. Donc c'est FinCEN qui a analysé les wallets utilisés par les 10 principales suites de ransomware, hein, et ils ont regardé en fait les transactions sortantes. Donc, ce qui veut dire...
Ah oui, donc c'est juste les revenus en fait des ransomware, mais ça prend pas en compte les dégâts occasionnés, le coût des dégâts occasionnés.
Du tout, c'est juste les rançons, et en plus, c'est une borne inférieure des rançons, puisque comme ils ont regardé les transactions sortantes, rien n'indique qu'il reste pas du fric sur les wallets. Ça veut dire que c'est une estimation basse. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi la lutte contre la cybercriminalité s'est devenue une priorité aux États-Unis et puis ailleurs. Donc après un record haut, est-ce qu'on peut pas prendre un petit record bas? Twitch, avec Twitch, Twitch était victime donc d'un hack très récemment, on en a beaucoup parlé, donc qui a permis à n'importe qui, hein, de récupérer l'intégralité du code source, ce qui l'expose très fortement aux attaques, et donc il a réagi. Alors il a réagi pas en engageant des experts, non, on est dans la gig économie, attention, la gig économie, je sais jamais très bien comment on dit. Et en tout cas, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Des bug bounty. Alors, bug bounty, tout le monde en fait, hein. Donc il se faisait déjà en fait des bug bounty, comme tout le monde. Donc la chasse aux bugs était déjà ouverte, mais là les primes sont plus élevées.
On rappelle, hein, les bug bounty, c'est faire appel en gros à des volontaires qui vont réaliser des hacks, mais encadrés et en vue de rémunération, grosso modo. Hein.
Exactement. Donc pour les vulnérabilités les plus critiques, ben, la prime elle passe de 3 000 à 5 000 dollars. Pour celles moins critiques, on passe de 1 800 à 2 000 dollars. Et pour les paliers en dessous, on passe de 300 à 500 et de 100 à 300. Alors si comme moi, vous ne comprenez pas la logique derrière l'évolution des tarifs, on peut quand même se mettre d'accord pour considérer que la réaction de Twitch est la plus pingre qu'on puisse imaginer suite à une fuite de données aussi considérablement énorme. Parce que, t'imagines le travail? Tu vois le travail que ça représente, l'analyse de centaines de milliers de lignes de code? 5 000 dollars? 2 000 dollars? Non mais c'est une blague. Après on se demande pourquoi le marché 0D0D est si florissant sur le dark web. Bah, te demande plus, hein.
C'est un mauvais signal clairement envoyé. Mais peut-être qu'Amazon n'a plus d'argent, Guillaume. Ouais, ce serait peut-être ça.
Oui, ça devrait être ça. Oui, peu cher.
On va terminer cet épisode de Tech Café avec quelques petites news dans le monde du jeu vidéo. Oui, vous allez être à jour, forcément. Google, alors il y a le procès Epic versus Apple dont on a largement parlé, mais on avait oublié un petit peu de parler de Google, Guillaume.
Oui, bah en fait, c'est un petit peu la même chose. Hein. Google estime que l'échange donc d'achat in-app de Fortnite constitue une violation de contrat. Et donc, lui aussi, il poursuit Epic en justice. Et voilà. Donc globalement, ça y est, c'est reparti. Google attaque Epic. Donc voilà, Apple et Epic sont en procès aussi. Enfin, c'est le bordel, c'est tout azimut. Oui, parce que Epic avait fait la même chose sur le Google Play que sur l'App Store, bien entendu. Donc bon, c'était assez attendu, mais voilà, effectivement, Google attaque Epic. Donc encore un nouveau procès, super.
On va parler de vente de consoles avec la PlayStation 5 qui bat des records. On pourrait penser qu'elles sont très pénalisées par la faible disponibilité et pourtant, Guillaume.
Oui, alors pour tous ceux qui pensaient que c'était la dernière génération de consoles, la PS4, et que les consoles c'était mort et tout, bon, Bah écoute, non, hein. Déjà la Switch se vend, mais elle se vend super super bien, ça, ouais, tout le monde le sait.
Et attends le DLC Animal Crossing, tu vas voir.
Mais complètement, mais alors, et puis le pack, alors c'est quoi, c'est Mega Drive Nintendo 64, avec les manettes et
alors,
tout.
Alors oui, même si j'y comprends rien, mais oui, effectivement, vous avez un abonnement au Nintendo Switch Online Plus, donc qui est en version accédée au jeu 64, et vous avez le DLC Animal Crossing qui est offert dedans si jamais vous acceptez de payer ça. Et j'avoue que je suis un peu perdu par les propositions tarifaires de Nintendo, mais bon, l'essentiel c'est qu'il y a un DLC pour Animal Crossing.
J'ai pas Animal Crossing, je m'en fous un peu, mais oui, effectivement, il y a un truc avec ça. Bon, enfin, c'est bordélique, mais c'est rigolo. J'avoue que, enfin, bon. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que vous avez les manettes. Et c'est ça, il y a les manettes aussi.
Ah, mais c'est pas offert avec. C'est si jamais, je crois, tu prends l'abonnement supplémentaire, tu as le droit d'acheter en avant-première la manette.
Tu as le droit d'acheter la manette, c'est formidable.
Tu as le privilège.
Magnifique.
Il me semble, excusez-moi, si je dis des bêtises, surtout dites-le nous, parce qu'il est possible que je dise des imprécisions. Mais bon, on voulait parler de chiffres de vente de consoles, Guillaume.
Oui, bah, la PlayStation 5, donc, qui pourtant est en pénurie partout, elle est réussie quand même à se vendre très très bien, en fait. Elle se vend tellement bien que pour la première fois en septembre dernier, en septembre 2021, elle s'est mieux vendue que la Nintendo Switch, à la fois en termes d'unités vendues et à la fois en termes de fric généré. Donc c'est quand même très fort. Faut dire que la Switch, ça fait 33 mois qu'elle est la console qui se vend le mieux partout. Enfin, aux États-Unis. Donc c'est un record qui est assez extraordinaire, qui a été battu un petit peu. Alors c'était en 2018, c'est la PlayStation 4 avant qui était la console la plus vendue. La Nintendo Switch a pris la coupe, enfin, on va dire. Et bon, là globalement, la PlayStation 5 c'est très très bien vendue. Alors il faut voir aussi que la PlayStation 5, en termes de dollars, donc en termes d'argent fait, c'est la console qui s'est le mieux vendue. Et que la Nintendo Switch, sur 2021, c'est celle qui s'est le mieux vendue en termes d'unités vendues. Et donc là, oui, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la PlayStation 5 se vend vraiment très très bien. Elle part à une vitesse extraordinaire, et c'est aussi pour ça qu'il y a une pénurie, hein, donc c'est parce qu'il n'y a pas énormément de stock, mais c'est aussi parce que les joueurs sont comme des fous dessus. Donc ouais, non, les consoles, ça va, il n'y a aucun problème, le marché se chiffre en milliards, et c'est impressionnant. Et il est en constante augmentation d'ailleurs. Puisque là,
et tant mieux, parce que ça veut dire que le monde du jeu vidéo se porte finalement globalement bien, je sais pas, mais en tout cas, il est florissant.
Donc il est complètement florissant. Il y a, je crois que c'est 12% par rapport à 2020 d'augmentation de vente, enfin d'argent dépensé dans le jeu vidéo. Je crois que c'est passé de 4,25 milliards à 4,36 milliards ou un truc comme ça, je sais plus.
Et après, la question que je peux me poser, c'est est-ce que, ce serait trop long pour un épisode de Tech Café, mais est-ce que cette tendance-là est accentuée par des confinements, par exemple, où les gens ont tendance aussi à peut-être être plus tournés sur leur intérieur, tu vois, dans des grandes lignes en tout cas, et surtout jusqu'où ça va aller, tu vois, je me pose la question, est-ce que ça va continuer à progresser comme ça? Mais évidemment, on verra ça à l'échelle de plusieurs années, et c'est pas dans cet épisode qu'on va répondre à la question. Par contre, on va se tourner vers le passé, mais le beau passé, celui qui est revu avec les technologies du présent, Guillaume, c'est Diablo 2 qui m'a tant occupé pendant mes années d'études et qui se voit offrir une nouvelle version beaucoup plus belle. Mais Guillaume, c'est pas si simple.
Non, mais en fait, c'est une version qui est beaucoup plus belle, mais qui, dans son cœur, est restée la même. C'est surtout dans son code. Donc, en gros, il y a une couche de peinture, mais c'est un peu le même moteur. Et c'est un gros souci en 2021, puisqu'il y a des soucis de connexion, il y a des soucis de gestion de charge, il y a des soucis avec la manière dont les joueurs jouent, en fait, hein, qui jouent différemment de l'époque. Et en plus, il faut se connecter même pour jouer en solo. Ce qui est une aberration, mais bon, c'est autre chose. Donc, globalement, Diablo 2 Resurrected, c'est, à la suite d'une mise à jour en plus, ça marchait déjà moyen, ils ont fait une mise à jour, c'est que ça s'est complètement effondré. Et donc là, le gros souci, c'est que tu peux pas te connecter, quoi, tu peux pas jouer quand tu veux, il y a des gens qui ont perdu leur sauvegarde, donc ça se passe vraiment très mal. Petit à petit, graduellement, ça va s'améliorer, ils font mise à jour sur mise à jour, mais bon, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Bon, s'ils avaient pas... Cette obsession de la connexion permanente aussi, c'est à mon avis un vrai gros souci, je pense. C'est quand même très ballot parce que ça dégoûte pas mal de gens de Diablo et de Blizzard, alors que Diablo 4, est pas très très loin, il me semble. Donc c'est quand même très dommage. Bon, enfin, tout, c'est... si vous voulez jouer à Diablo 2, vous pouvez toujours revenir à votre bon vieux CD. Hein, si c'est encore trouvable.
Vous avez le droit.
C'est hein. encore trouvable. Vous pouvez encore y jouer comme ça, comme à l'époque.
Je dois l'avoir dans un carton.
Ben oui. Ouais.
Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission, pour cet épisode 247 de Tech Café. On est ravis d'avoir passé ce moment dans vos oreilles, en votre compagnie. On espère évidemment que ça aura contribué à vous informer, voire à vous éclairer et au moins à vous divertir, à vous faire sourire. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, je pense que le moyen le plus efficace et le plus concret pour nous soutenir et continuer à vivre une belle aventure autour de Tech Café, c'est de vous rendre sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos qui vont bien pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce dispositif de financement participatif. En attendant, on vous invite bien entendu à vous rendre sur techcafé.fr, découvrir l'éventail de tous les épisodes qui sont encore aujourd'hui dispo à l'écoute, forcément. Et puis peut-être que vous allez avoir envie de rentrer en contact avec Guillaume Poggiaspala. Alors Guillaume, je te pose la question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Je sais pas, peut-être en Nouvelle Tristram, mais par contre version 2002. Hein.
Nouvelle Tristram, très bien. Merci beaucoup Guillaume. Que de souvenirs avec comment il s'appelle. J'ai perdu son nom au vieillard du. Bon bref, je m'égare. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Vous me retrouvez également une fois toutes les deux semaines dans un autre épisode, dans un autre podcast pardon, qui vous parle d'amélioration du quotidien et de développement personnel. C'est Relife avec mon ami Matt, alias Prof du Web. Merci beaucoup pour votre fidélité. On vous dit rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.
Descartes Kane, le personnage Diablo 2.